Vous êtes sur RTL.
Le journal, c'est avec vous, Jérôme Chapuis, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Il y a la une, la condamnation et les regrets d'un gilet jaune.
L'un de ceux qui avait lancé « Suicidez-vous » aux policiers lors d'une des dernières manifestations, RTL l'a rencontré hier en marge de son procès. Rouler sur le périph à 50 à l'heure à Paris, la proposition des élus divise les automobilistes, vous l'entendrez. Dans l'actualité également, le calendrier des réformes se précise, la baisse des impôts sera détaillée en juin, annonce Édouard Philippe. Et puis un huissier envoyé par les fleuristes en cette veille de 1er mai, les professionnels partent en guerre contre les particuliers qui achètent du muguet en grande quantité pour le revendre à prix cassé. Nous serons à Lens.
Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Dans 13 minutes, vous en prenez à Francis Lalanne.
Oh, je m'en prends. Le bard engagé entre dans la danse des européennes. Et c'est pas un exercice.
De météo avant 7h, Marina.
20 degrés et du soleil, c'est le programme météo de l'après-midi à Saumur, dans le Maine-et-Loire.
RTL Matin.
C'est la première condamnation après le scandale provoqué par les appels au suicide des policiers lors de la manifestation des Gilets jaunes le 20 avril dernier.
8 mois de prison avec sursis, 180 heures de travaux d'intérêt général. Ce cuisinier au chômage âgé de 49 ans était jugé hier soir. Alice Moreno, vous avez pu recueillir son témoignage en exclusivité pour RTL. À l'audience, il a fait profil bas.
Effectivement, affublé d'un t-shirt à l'effigie de Pablo Escobar, ses deux avant-bras couverts de tatouages, le prévenu exprime d'emblée ses regrets. « C'est la folie du moment, je promets de ne plus refaire une chose pareille », jure l'homme de 49 ans. Oui, il a bien crié « Suicidez-vous » aux policiers, mais il se défend d'être l'instigateur de ce mouvement.
Ce suicidez-vous, j'avoue que je l'ai souligné avec force, doigt d'honneur. Je suis arrivé sur un groupe, ça faisait déjà 5 ou 6 fois qu'il répétait cette phrase-là. Je m'excuse encore auprès des forces de l'ordre, ça serait mieux d'éviter de répéter ces propos-là dans les futures manifs. Je ne cautionne pas ce message, voilà.
Il tente alors de justifier son geste. Ça a commencé, dit-il, après qu'une femme enceinte a été bousculée par la police. Réponse cinglante de l'avocate des policiers. Cet appel au suicide, c'est le paroxysme de la haine. Cela a un effet dévastateur sur les forces de l'ordre qui sont à bout. La défense temporise. Il n'avait pas conscience de la gravité de ses mots. C'était un ras-le-bol de voir ses amis blessés, de la violence et de l'injustice.
Alice Moreno, et j'ajoute qu'il devra aussi verser 500 euros à chacun des deux policiers qui avaient porté plainte. Les forces de l'ordre qui seront déployées dès ce soir aux abords des gares parisiennes afin de repérer les personnes fichées à la veille d'un 1er mai à haut risque. Des appels à la violence circulent sur les réseaux sociaux. Les détails sur les baisses d'impôts et la fin des niches fiscales dévoilées en juin. Le calendrier a été précisé hier soir par le Premier ministre à l'issue du séminaire gouvernemental. La réforme de la Constitution, elle, reprendra en juillet, date à laquelle sera aussi présenté le projet de loi bioéthique qui porte notamment sur l'extension de la PMA.
Et on parlera de toutes ces annonces dans un peu plus d'une heure. Maintenant, Sébastien Lecornu, co-animateur du Grand Débat et ministre des Collectivités Territoriales, sera l'invité d'Elisabeth Martichoux à 8h moins quart.
Édouard Philippe a aussi indiqué hier soir qu'un bilan des 80 km/h sur les routes secondaires serait dressé en juin. C'est à ce moment-là que seront décidés ou non d'éventuels aménagements.
En attendant, c'est la vitesse sur le périphérique parisien qui fait un nouveau débat ce matin.
Les élus parisiens de tous bords, chargés de réfléchir à l'avenir des 4 voies qui font le tour de la capitale, suggèrent d'abaisser encore la limitation, 50 km/h contre 70. Il s'agirait en fait de transformer le périph en boulevard urbain, puisqu'une voie de circulation disparaîtrait purement et simplement. Une autre serait réservée au transport collectif. Romain Houg, vous êtes allé à la rencontre des automobilistes concernés, ils sont partagés.
Oui, la question divise les Parisiens. Il y a d'abord ceux qui sont pour, comme Eliane, une automobiliste qui constate quotidiennement des abus sur le boulevard.
Les gens vont beaucoup trop vite sur le périphérique et des boîtes sans prévenir. En plus, il y a toutes les sorties où il faut quand même ralentir. Non, je trouve que c'est une très bonne idée.
Et ceux qui sont contre, c'est le cas d'Alain, retraité de 74 ans.
J'ai roulé 40 ans sur le périphérique à 90. On était moins embêtés que maintenant.
Car il y a quelques années, il lui fallait à peine une quinzaine de minutes pour faire le trajet entre chez lui et chez son fils. Aujourd'hui, c'est plutôt
50 minutes, 55 minutes même. Porte-Maillot, Porte-d'Orléans, il y a 9 km, ça fait beaucoup. Hein. Alors je vois pas l'avantage de réduire la vitesse. Hein.
Alors pour tenter de mettre tout le monde d'accord, Marilyn, aide-soignante de 53 ans, a une proposition à faire.
Ça serait bien de faire un jour ou deux ou trois, faire un test et après voir par rapport à la pollution, aux embouteillages, à ce que pensent les riverains. Et comme ça au moins on serait fixé.
Espèce de grand débat autour du périphérique.
Voilà, c'est à la mode.
Pour le moment, aucune consultation des Parisiens n'est prévue. Le rapport doit d'abord être remis à Anne Hidalgo, la maire de Paris, le 21 mai prochain.
Merci Romain Houg.
Le périphérique à 50, vous donnez votre avis au 32-10 et nous en débattrons avec Yves Calvi à 8h20 en studio. Yves Cara, porte-parole de l'Union Nationale de l'Automobile Club, et David Béliard, président du groupe écologiste à Paris.
Garder son numéro de téléphone fixe toute sa vie, ce sera bientôt possible. L'ARCEP, qui régule le secteur des télécoms, prévoit une réforme en deux temps. Dès le 1er janvier prochain, vous pourriez garder votre numéro si vous déménagez dans la même zone d'indicatif qui commence par 01, 02 jusqu'à 05, et à partir de 2023, ce serait possible même si vous changez de région. Cette proposition fait actuellement l'objet d'une consultation publique.
RTL 6h35, c'est la guerre des fleurs, en l'occurrence pas la guerre des roses.
Mais celle du muguet qui s'apprête à déferler demain dans toute la France. Les fleuristes professionnels se battent contre la concurrence de certains vendeurs à la sauvette, concurrence qu'ils jugent déloyale. En théorie, les particuliers ne peuvent vendre que du muguet sauvage, cueilli dans les bois. Dans la pratique, il en va tout autrement. Franck Hanson, vous avez suivi un huissier près de Lens qui a constaté ces dérives.
Certains n'hésitent pas à faire plus d'une heure de route pour s'approvisionner ici. Sur le parking de ce grossiste, des particuliers ressortent avec leurs chariots remplis de muguets, de roses, vendus à prix cassé. Missionné par la Fédération des fleuristes du Nord, maître Jean-Charles Millois, huissier, prend des photos et a même envoyé un faux client.
C'est quasiment industrialisé. On est bien évidemment loin de la réglementation, c'est-à-dire un muguet sauvage qui est vendu en très petite quantité par des particuliers. Là, ici, on a des gens qui remplissent le coffre de voiture de centaines de muguet, hein, puisqu'on impose aussi donc un nombre minima de brins.
Attirés par la publicité sur internet, les vendeurs à la sauvette espèrent un bon bénéfice.
Je suis satisfaite. Le muguet, il y a 20 centimes le brin. Je vais tout emballer.
Ça a rendu les fins de mois quand même. Si dans le bois il n'y en a pas, on vient l'acheter. Cette année, il est magnifique. Ça permet d'aller en vacances. Les fleuristes, ils payent. Ben, nous, on se débrouille comme on peut aussi. Hein.
Non, pour tout le monde, chacun son petit bonheur.
Dans sa boutique à Arnes, Michel est dépité. Cette fleuriste a du mal à lutter face à une concurrence toujours plus envahissante.
On vendait 6000 brins.
Et aujourd'hui ?
350. Nous, on paye des charges et eux, ils n'en payent pas. Pour moi, j'ai plus rien.
Des fleuristes artisans qui appellent aussi les élus à faire respecter la réglementation ce jour du 1er mai.
Reportage de Franck Hanson à Lens.
Transition difficile dans l'actualité ce matin, la réapparition du chef de l'État islamique.
Un homme présenté comme Aboubakar al-Baghdadi, autoproclamé calife de Daesh. Il n'était pas apparu depuis 5 ans, mais surtout, on était sans nouvelles de lui depuis l'éradication du groupe terroriste fin mars. La vidéo diffusée hier n'est pas datée, mais elle contient des références à des événements récents, comme les attentats du dimanche de Pâques au Sri Lanka. Ce sera l'image du jour. Au Japon, l'empereur Akihito va abdiquer après 30 ans de règne. Celui qui symbolise l'unité de son pays laisse la place à son fils Naruhito. Cette abdication est une première en 200 ans.
On y reviendra dans un peu plus d'une demi-heure. Jean-Marie Bouissou, historien et spécialiste du Japon, sera en direct de Tokyo, invité d'Yves Calvi. 6h34 sur RTL, 6h37 pardon, direction Metz à présent, l'université de Lorraine, confrontée au racisme de certains de ses étudiants.
Dans le département de sociologie, ils utilisaient le service Messenger de Facebook pour échanger des commentaires insultants sur d'autres étudiants noirs, Samuel Goldschmidt.
Dès hier, l'université de Lorraine a lancé son enquête administrative en auditionnant sur le campus de Metz ceux qui apparaissent comme les auteurs des messages. Et cet après-midi, une marche est organisée par les étudiants, notamment à l'initiative d'Ousmane Gueye.
Ils n'ont pas compris que la frontière est poreuse entre le privé et le public, donc ils sont tombés dans leur propre piège. Quoi. D'emblée, c'est choquant que ça se passe à l'université. Le racisme n'a pas sa place dans le monde, mais plus particulièrement à l'université, ça devient beaucoup plus grave en fait. D'autant plus que c'est les étudiants en sociologie qui sont censés apprendre les sciences sociales et comprendre la discrimination. C'est pourquoi nous sommes indignés par rapport à ça et c'est l'objet de notre marche.
Dans le défilé, il y aura l'UNEF qui a justement mené une enquête sur les campus. Amnia Hamidi est la présidente du syndicat pour la Lorraine.
42% des personnes perçues comme non blanches avaient été victimes d'agressions racistes. Quoi. Nous, ce qu'on revendique, c'est de mettre en place une charte de lutte contre le racisme parce qu'il n'y a rien qui est mis en place. À l'université de Lorraine, il y a un psychologue en charge de l'accompagnement des victimes de discrimination. Un psychologue pour 60 000 personnes, c'est peu.
Et de nouvelles auditions des victimes, cette fois, sont également prévues aujourd'hui.
Merci Samuel Goldschmidt.
Le football, après le fiasco de la Coupe de France samedi, le PSG déjà de retour sur le terrain.
Et pas facile, de l'aveu même de Thomas Tuchel. Paris joue à Montpellier ce soir en Ligue 1, c'est à 19h. L'entraîneur ne digère toujours pas l'attitude de ses joueurs lors de la finale perdue face à Rennes, même s'il sait qu'il pourrait lui-même payer pour cette fin de saison calamiteuse.
Je ne sens pas que mon position est fragile. Je ne suis pas naïf. Pour moi, il y a des joueurs qui aiment gagner et il y a des joueurs qui détestent perdre. Et c'est une grande différence parce que tout le monde aime gagner, mais seulement quelques joueurs détestent perdre. C'est pas à nous de choisir si un match est plus important qu'un autre. Non, non, c'est pas comme ça.
Voilà, Thomas Tourelle au micro RTL de Nicolas Georgerot. Match à 19h, donc ce soir, Montpellier-PSG.
Merci Jérôme Chapuis. Vous revenez bien évidemment à 8h au côté d'Yves Calvi.